Il est à présent l'heure de retrouver votre rendez-vous incontournable autour de la littérature dessinée. C'est bien sûr Écriture dessinée en compagnie de Bruno. Bonjour Bruno.
Bonjour Fabien. Alors aujourd'hui, c'est une autrice qu'on va entendre. L'année dernière, j'avais commencé à présenter autant d'auteurs que d'autrices. La bande dessinée s'est ouverte considérablement à l'écriture, au dessin et aux œuvres complètes d'autrices, de femmes qui ont changé le visage de la bande dessinée contemporaine, et c'est une très bonne chose. Cette autrice, c'est Teresa Valero, qui vient de publier le deuxième tome de sa série Contrapasso, et c'est une œuvre remarquable par son ampleur, tant scénaristique que graphique, et donc elle sera avec nous à partir de 14h15. À tout de suite. Écriture dessinée. Bonjour à toutes et à tous. Une brève pour démarrer cette émission avec la nouvelle session des États généraux de la bande dessinée qui avait déjà eu lieu il y a quelques années. Et c'est important, ces États généraux, parce que il y a vraiment une réflexion sur le métier d'auteur de bande dessinée. Qu'est-ce que ça représente, ces difficultés, les rémunérations? Et ça avait été le point de départ qui était une modification comment on appelle ça, de ce qu'on retire à la source des rémunérations pour pouvoir financer une assurance maladie. Et ça diminuait grandement les revenus, les rémunérations des auteurs. Donc là, il y a une thématique importante. Est-ce que les jeunes vont encore vers la bande dessinée? Donc vous pouvez témoigner. Il y a beaucoup d'artistes nomades, comme je peux l'évoquer, comme je l'ai évoqué dans la chronique d'hier avec Anaïs Dumas. Et donc, est-ce que les jeunes vont encore vers la bande dessinée? C'est un thème important et on y reviendra un peu plus longuement au fur et à mesure que ces états généraux vont se développer et dans l'émission elle-même avec un invité. Virgule. Alors le livre dont je voudrais vous parler est motivé, cette présentation est motivée par plusieurs thématiques. Ça pourrait être celle de, par exemple, l'écriture de collaboration. Les deux auteurs de la Ballade des frères Blood, ou Blood, Blood c'est mieux, ces auteurs sont Brian Azzarello et Eduardo Risso. Et c'est deux auteurs qui ont un travail en commun important, et à chaque fois, il y a une puissance et une force dans leur écriture et dans les livres qu'ils produisent, qui est assez étonnante. Je vais donner un exemple, c'est 100 Bullets, c'est donc un récit policier, mais qui est tourné avec énormément d'astuces. Il y a une écriture scénaristique où on est à chaque fois avec des angles de vue, et déjà le titre est assez étonnant. Il y a une collaboration qui se traduit une nouvelle fois donc avec ce récit qui est présenté sous forme de recueil, l'édition américaine étant toujours fractionnée. Là, nous avons l'ensemble du récit. Et cette balade des frères Blood a aussi un autre intérêt, c'est le rapport au dessin, à la dimension narrative du dessin. Eduardo Risso, qui est le dessinateur de la bande, a montré dans 100 Bullets beaucoup de qualités de découpage, d'utilisation d'aplats noirs très puissants, avec un dessin réaliste où le trait était d'une finesse et pourtant d'une très grande précision qui donnait une force à chaque personnage. Et là, dans la balade des frères Blood, l'approche graphique est très différente. C'est-à-dire qu'on a une mise en couleur à l'aquarelle avec beaucoup de nuances. Et donc, l'atmosphère même des images va trancher avec les autres collaborations entre Brian Azzarello et Eduardo Risso. C'est important parce que cette variation de style est une des grandes forces aussi de la bande dessinée. Il n'y a aucune obligation à ce qu'un dessinateur soit reconnu par son trait, par sa signature. Beaucoup d'auteurs essayent d'avoir ce principe pour que peut-être les ventes suivent plus facilement et qu'on va voir le dernier livre d'un tel parce qu'on a envie de retrouver son espace graphique, cette narration qu'il a déjà mis en œuvre. Eduardo Risso donc n'a pas cette approche et garde un côté réaliste dans la présentation. Donc on a des décors qui sont représentés avec cette exigence et cette précision pour que le lecteur soit vraiment sur les lieux. Il y a une façon de camper les personnages qui, là aussi, leur donne une stature vraisemblable avec des expressions, des finesses. Et cette qualité de représentation qui fait que, là aussi, on accompagne les personnages. Il y a un jeu sur les valeurs de plan qui est importante. Eduardo Risso n'hésite pas à se donner un peu d'espace avec des plus grandes cases. Il va utiliser aussi ces grandes cases pour avoir des différents plans dans l'image où on peut avoir un personnage en gros plan avec son regard et on va rentrer dans ce regard, on va en capter un certain nombre d'émotions et puis on aura à l'arrière-plan son épouse, ses trois enfants qui sont les frères Blood. Et cette image qui campe cette famille, eh bien, en une image, on a déjà beaucoup, beaucoup d'éléments qui apparaissent. Donc il y a dans l'écriture graphique d'Eduardo Risso cette volonté que chaque case apporte une force, une intensité au récit et que le lecteur ainsi s'immerge dans l'histoire. Alors, l'histoire, parce que maintenant parlons-en de l'histoire, parce que si je vous fais que la présentation du dessin. Alors, l'histoire, c'est un western, c'est assez rare dans les comics, et on est donc dans un Far West de la fin du 19e siècle, et trois enfants vont traverser la frontière sauvage du Texas pour secourir leur mère qui a été kidnappée par une impitoyable troupe de hors-la-loi. Ils ont aussi assassiné leur père, le pasteur du village. Tout au long de leur voyage, nos héros vont affronter l'hostilité d'une nature impitoyable, des animaux mortels, des chasseurs de primes, sans foi ni loi, et bien plus que cela. Alors, il y a dans l'écriture de ce tandem une envie, une volonté qui est de rendre compte, d'être une sorte de caisse de résonance de cette violence contemporaine et qui apparaissait déjà dans le Far West, qui était un moment de l'histoire des États-Unis où la loi était en train de s'écrire et la considération des habitants des États-Unis, eh bien, pour beaucoup, c'était quantité négligeable. Et donc, il y avait une violence récurrente importante. Et donc, les liens avec notre époque ne sont pas du tout de l'ordre du hasard. Brian Azzarello cherche aussi à mettre en scène cette violence et ses résistances à cette violence. Et c'est tout l'intérêt de la ballade des frères Blood, qui pourrait apparaître comme trois justiciers. Et c'est d'ailleurs la force de la couverture. On a trois cavaliers armés. Et en premier plan, on a ces trois très jeunes enfants. Cette fratrie qui va donc partir à la recherche de leur mère et qui vont vivre des aventures assez étonnantes. L'autre intérêt narratif, c'est la façon dont est présenté le récit. On a un narrateur qui est un des trois enfants et puis il va raconter et on aura une écriture manuscrite comme si ça venait d'un journal, et le journal du narrateur de cet enfant qui raconte comment les événements se sont passés. C'est un comics, alors c'est un genre que j'aime beaucoup parce qu'il a actuellement une capacité de création étonnante, et en tout cas, c'est un livre qui montre toute la force de ce tandem, de cette écriture de collaboration que font Brian Azzarello et Eduardo Risso. C'est peut-être un peu approximatif ma prononciation espagnole, mais c'est des Espagnols qui travaillent pour les Américains depuis de très très nombreuses années. Les 224 pages de ce comics sont publiées par les éditions Delcourt. Son prix est de 25,50 € et le livre a été imprimé en Allemagne. Musique.
Una cuppulella che vi si era alzata, passa scampagnando pattuleta, con mano a papà te fa guardare. Tuo fa l'americano, americano, americano, senta a me chi tu fa fa. Tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky e soda, poi tu senti disturbato. Tu a ballo rock and roll, tu gioca a baseball, fai sorte per camella, chi te li dà la borsetta di mamma, tuo fa l'americano, americano, americano, ma si nati in Italia, senta a me non c'è sta niente fa, ok napolitan, tuo fa l'americano, tuo fa l'americano,
tuo fa l'americano, tuo fa l'americano.
americano, americano, americano. Ma si nati in Italia, senta a me non c'è sta niente a fa. Ok, napolitan, tuo fa l'American, tuo fa l'American.
Wish che sole rock and roll, wish che sole rock and roll. Wish che sole rock and roll,
tuo fa l'American, tuo fa l'American.
Wish che sole rock and roll, wish che sole rock and roll. Wish che sole rock and roll.
Après avoir travaillé plusieurs années dans l'animation, participé à la création des studios Trident avec Juan Díaz-Canales, Teresa Valero œuvre en bande dessinée depuis 2008. Tout d'abord en tant que scénariste, puis pour différents dessinateurs, et puis elle dessine We Are Family, écrit par Marie Pavlenko. En 2021, elle paraît Contrapasso en tant qu'autrice complète. C'est un sujet d'ampleur qui nous immerge dans l'Espagne de Franco à Madrid en 1956. Construit sur une trame policière, Contrapasso est tout à la fois un roman graphique, un travail d'historienne et un récit féministe. Teresa Valero ne s'accorde aucune simplification. Le récit met en lien un ensemble d'événements, de personnages, de lieux ayant réellement existé, qui trouvent leur ampleur avec la fiction. Rarement un récit dessiné offre une telle précision sur le passé. La période du franquiste reste pour nous vague et là, elle s'éclaire. Cette précision vient aussi du dessin et de sa mise en scène. Le choix d'un cadre-bande variable est une évidence pour porter la densité de l'histoire. Le dessin détaille lui aussi chaque lieu, chaque personnage, leur gestuelle et expression. À chaque fois, elle touche juste. Un dessin nourri constamment par une documentation minutieuse dont le simple rassemblement des différents éléments est une entreprise colossale. Nous sommes avec Teresa Valero pour qu'elle nous précise ces processus de création qui ont donné ces deux tomes de Contrapasso. Bonjour Teresa Valero. C'est Valero qu'il faut que je dise ou...
Oui, bien sûr. Bon. Bonjour Bruno. Bonjour, c'est Valero. Valero, c'est parfait. En espagnol, c'est Valero.
Mais... Valero, c'est vrai. C'est
oui,
vrai.
C'est ça.
J'ai oublié ça. Alors, il y a dans Contrapasso cet intense récit, qui est une sorte de roman policier aussi. Comment c'est développer ce projet, parce que vous avez rassemblé un ensemble de pistes, d'éléments sur ce Madrid des années 56.
Oui, mon idée d'origine, c'était de raconter l'histoire d'un journal qui a vraiment existé, qui s'appelait El Caso, Le Cas, et qui était une hebdomadaire de faits divers et qui a lutté, a résisté beaucoup la censure du franquisme, parce que la chose curieuse, c'est que la censure l'a permis seulement un crime violent pour chaque semaine. Il était permis seulement d'informer des cas violents de peu en peu. Et alors, j'ai lu l'histoire de ce journal et il était complètement nourri d'anecdotes et de moments incroyables dans la lutte. Sûr et pour essayer d'informer un peu librement. Mais quand j'étais en train de développer les projets, la télévision espagnole a sorti en série qui racontait tout ça. Alors j'ai dû tout repenser pour trouver une solution, parce que toute cette ambiance de la liberté des de presse et de journaux à l'époque et les premières protestations des étudiantes, tout ça m'a motivé beaucoup. Et alors je me dis, bon, je vais essayer de faire une autre histoire, mais placée dans les mêmes époques, et essayer un peu de traiter les mêmes sujets et de parler un peu de tout ça.
Alors, comment c'est collecté cette documentation? Il y a plusieurs textes, il y a des textes de vous, notamment des postfaces, où vous expliquez les recherches, par exemple, sur un café célèbre de Madrid de cette époque, et les documents sont difficiles à trouver. Alors, que représente Teresa Balelo cette recherche et cette collecte de la documentation nécessaire?
Bon, j'essaie de faire un peu tout. J'ai vu tous les films de l'époque, les films espagnols, où tu peux voir un peu l'ambiance. Surtout, il y a pas mal de films qui montrent les Madrid des années 50. Et aussi, comme les films étaient vraiment censurés, tu peux voir aussi comment cet ton de cinéma va affecter aussi les histoires qui ces films vont raconter. Alors, pour moi, ça, c'est une source très importante de documentation. Aussi, bien sûr, les documentaires actuels qui vont parler un peu objectivement avec une intention critique de cette époque. Et bien sûr, des essais, des livres que parfois je dois chercher beaucoup parce que je trouve des livres qui sont vraiment anciens et pas faciles à trouver. Et encore, on a ici en Espagne une émission de radio qui s'appelle Document de Radio-Télévision Espagnole. Et ça, c'est une chose incroyable pour trouver des dates, des informations et des choses intéressantes pour nourrir les récits. Mais je pense que le plus important, c'est de parler avec des personnes qui ont vécu cette époque-là, parce que j'ai rencontré des journalistes qui sont maintenant très très anciens, qui ont exercé la profession dans les années 50 et qui m'y ont aidé incroyablement. Et ils m'ont tout raconté de les faits. Ils m'ont raconté les faits concrets qu'ils ont vécu, mais aussi ils m'ont raconté ces sentiments, leur façon d'effacer la censure et comment est-ce qu'ils ont fait pour essayer de faire un journalisme de compromis sous la dictature.
Teresa Balelo, à quel moment avez-vous fait intervenir le dessin dans la construction de ce récit? Est-ce que vous avez écrit la totalité de l'histoire ou est-ce que rapidement des dessins, des visuels se sont associés à l'écriture?
Donc, moi, je suis aussi dessinatrice et quand j'écris, c'est un inévitable de visualiser, d'avoir beaucoup d'images qui vont prendre de forme. Et alors, peu à peu, tu peux voir un peu les visages des personnages ou le décor ou l'ambiance générale. Alors, c'est comme un processus naturel qui va se passer quand tu es en train d'écrire et de développer les scénarios. Mais c'est pour le tome 1, c'est vrai que j'ai tout écrit au début, un peu pour être sûre que je pouvais bien contrôler tous les récits, parce que une récit polar a une mécanique très concrète qu'on doit faire. Alors j'essayais de contrôler tout ça très bien au début. Mais pour le deuxième tome, j'ai laissé un peu plus l'espace au dessin et j'ai écrit beaucoup mieux, moins. Et j'ai fait parfois quelques planches directement en dessin parce qu'il y avait une idée plus claire à la tête. Et bon, j'ai ressenti que je pouvais attaquer les dessins directement.
Alors, il y a dans votre récit, parce que c'est un récit dense et le dialogue est important, et une des caractéristiques de ce dialogue, c'est qu'ils définissent aussi les personnages eux-mêmes. Paloma a des répliques qui lui sont vraiment propres. Sainz, l'ancien, le journaliste le plus ancien, qui est donc un ancien des faits divers. Et puis Léon, qui lui donc a Léon Lenoir, un Français qui donc est à Madrid, jeune à chaque fois. Le dialogue, chaque propos définit les personnages. Comment travaillez-vous ces dialogues ? Est-ce que vous les exprimez à haute voix ? Comment se passe cette étape de l'écriture ?
Mm-hmm. Bon, pour moi, le plus important de n'importe quel récit, d'un roman, d'un film, ou de quelque histoire, ce sont les personnages, la construction des personnages. Je suis aussi professeure à la université de ce sujet. Je suis enseignante de comment on peut construire des personnages. Et pour moi, les dialogues, c'est une partie absolument essentielle pour révéler les caractères d'un personnage. Alors, je les travaille beaucoup, beaucoup. Normalement, je les écris beaucoup de fois, je le lis en haute voix et c'est l'élément qui est toujours vivant, toujours en évolution, parce que jusqu'à la dernière lecture que j'avais faire de le livre quand il est complètement terminé, et je suis en train de peaufiner, de voir si la phrase, c'est vraiment une phrase que Léon ou Sainz dirait, ou si ça va donner une information importante, ou c'est une phrase que tu peux éliminer sans risque. Alors, tout ça, je suis tout le temps, jusqu'à la fin, jusqu'à ce que je vais développer les archives chez l'éditeur. Et je suis toujours en révision de ces dialogues pour les laisser vraiment fin, vraiment pertinent.
Teresa Balello, je vous propose une deuxième pause musicale avec Elvis Presley. Cette fois, c'est vous qui avez donc fait la programmation musicale. Et on se retrouve donc juste après Elvis. À tout de suite.
Ok. You know I can be found sitting home all alone. If you can't come around, at least please tell the phone. Don't be cruel to who heart is true.
baby, if I made you mad for something I might have said. Please don't forget my past, the future looks bright ahead. Don't be cruel to who a heart is true. I don't want no other love, baby, it's just you I'm thinking of. Don't stop thinking of me, don't make me feel this way. Come on over here and love me, you know what I want you to say. Don't be cruel to who a heart is true. Why should we be apart? I really love you, baby, cross my heart. Let's walk up to the preacher and let us say I do. Then you'll know you'll have me, and I know that I'll have you. Don't be cruel to who a heart is true. I don't want no other love, oh baby, it's just you I'm thinking of. Don't be cruel to who a heart is true. Don't be cruel to who a heart is true. I don't want no other love, oh baby, it's just you I'm thinking of.
Vous êtes sur Radio Escapade dans l'émission Écriture dessinée. Nous sommes en direct avec Teresa Ballello, qui est donc autrice d'une série Contrapasso dont le deuxième tome est sorti ce mois-ci. Alors, il y a une question qui est importante, un choix, un parti pris très important, Teresa Ballello, c'est la dimension féministe de votre récit. La place des femmes est essentielle, et notamment sous Franco, sous cette période franquiste, où vous avez plusieurs lieux où on va les trouver, et cette clinique où des médecins, des gynécologues s'arrangent grandement avec la liberté ou l'impunité qu'ils ont. Comment, là aussi, c'est fait cette dimension féministe, et comment s'est passée cette écriture-là spécifiquement?
Et bon, pour moi, c'était très important de constater comment est-ce que la dictature avait enlevé beaucoup de droits aux femmes qui on avait conquises pendant la République. C'est vrai qu'on a eu en Espagne deux périodes de république très 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 courtes, et pour la deuxième république, ça a été juste avant notre guerre civile, et on a essayé d'amplifier beaucoup de droits, comme les droits au divorce, les votes féminins, et aussi beaucoup de droits qui veulent garantir un peu en indépendance un peu meilleure pour les femmes. Et quand le général Franco, il a gagné la guerre, et l'idéologie fasciste a retourné à la femme à la maison. Et ils ont fait une labeur d'éducation très très forte pour essayer de convaincre aux femmes que la vie d'épouse et mère, c'était le mieux. Alors c'est vrai que pour certaines femmes qui avaient une volonté d'être indépendante ou de travailler, et c'était vraiment vraiment difficile, et parfois quand elles sont tombées en dépression ou ils se sont révélés. Et il y avait quelques cliniques et quelques traitements psychologiques pour les traiteurs comme des personnes qui sont inadaptées ou qui avaient quelques problèmes pour être en société. Alors, je voulais absolument parler de ça, parler aussi des femmes qui se sont échappées de ces destins qui le gouvernement, l'État a présenté comme la seule forme d'être femme sous la dictature et raconter un peu de ces difficultés que ces femmes ont trouvées dans leur vie.
Alors, Teresa Balelo, il y a dans Contrapasso ces images où vous rappelez les publicités pour que les femmes soient des ménagères exemplaires et non pas tentées par une vie amoureuse ou sensuelle. Et puis, il y a donc différents dessins qui vont ainsi s'exprimer directement. C'est important pour vous d'avoir cette amplitude de dessin dans vos récits ?
Et oui, pour moi, c'est important et aussi c'est amplifier parce que c'est vrai que je suis une personne avec une tendance à la fatigue graphique ou quand je passe beaucoup de temps sur un projet ou en faisant la même chose, je m'ennuie rapidement. Alors, ça me donne l'opportunité d'explorer différents styles graphiques pour la publicité de l'époque, pour les planches des bandes dessinées, et pour aussi quand j'ai fait une flashback, et parfois j'essaie de changer un peu le style graphique. Et ça, c'est très intéressant pour moi. Et aussi pour quand je trouve des publicités comme ça qui sont tout réelles, maintenant c'est incroyable de voir que certaines choses, certaines publicités pour la femme qui vont nous dire comment c'est bien de faire la ménage et tout ça. Alors, normalement, les styles graphiques des années 50, c'est aussi très intéressant. Alors, pour moi, essayer de les mouler, de limiter un peu, ça me donne l'opportunité d'apprendre quelque chose de neuf.
Alors, il y a maintenant la mise en scène et la partie dessin. Donc, vous avez choisi d'avoir des pages avec un nombre de cases assez important. On est sur une sorte de base de quatre bandes parce qu'il y a beaucoup d'événements. Le récit est très dense. Et pourtant, vous avez une précision dans chaque image. On a des plans très larges sur des images qui ne sont pas très grandes, des scènes de rédaction, des scènes de café, des scènes de place, où on a beaucoup de détails, beaucoup de personnages qui sont présents. Alors, qu'est-ce qui vous plaît de ces différents défis graphiques, Teresa Balelo?
Bon, pour moi, comme je viens de l'animation et j'ai fait dans ma carrière à l'animation, j'ai fait surtout des storyboards. Alors, pour moi, le plus important, c'est la narrative. La narrative qui va me faire choisir à chaque fois et les cadres que je pense que c'est le plus adéquat, les grands plans quand il faut que je donne beaucoup d'informations ou informer de l'ambiance de l'endroit où l'action postérieure va se développer. Alors, pour moi, c'est ça, c'est la chose déterminante. Et alors, je n'aime pas beaucoup de dessiner beaucoup de personnages ou de faire les fêtes qui vont apparaître à le tome 1 et le tome 2 avec beaucoup, beaucoup de personnages et beaucoup de choses qui se passent à la même fois. Mais je pense que c'est nécessaire pour l'histoire, pour donner à le lecteur et l'ambiance pour qu'il peut s'immerser dans l'époque et dans l'ambiance générale. Alors j'ai essayé de faire des cadres avec la couleur, la lumière, les effets qui vont faire ressentir au lecteur et froid, le chaleur, l'humidité, des odeurs, tout ça.
Alors, vous parliez de froid, donc il y a des scènes qui se passent dans la neige, il y a des scènes qui se passent plutôt, par exemple, là où il y a les grottes, il y a plutôt de la sécheresse, de l'eau beaucoup plus importante. C'est pas beaucoup de dessinateurs simplifient peut-être, mais vous c'est un plaisir. Alors quelle dessinatrice êtes-vous, Teresa Balello? Est-ce que vous êtes très posée, détendue quand vous dessinez, ou est-ce qu'il y a une tension?
Je pense que j'aime le plus l'émotion. Alors, tu sais que je dessine et toutes les décisions que je vais prendre comme dessinatrice sont parce que j'ai réfléchi comment donner de l'émotion au lecteur. Et c'est pour ça que la neige ou la pluie ou la lumière d'une après-midi, d'une soirée la nuit serait très noire. Et ce sont des éléments graphiques et des éléments narratifs qui ont un grand pouvoir pour donner de l'émotion. Et aussi l'expressivité du personnage que je travaille beaucoup, beaucoup. J'essaye de faire des gestes qui sont très précis, très concrets pour quelque chose qui se passe, dialogue qui va se dire, et de choisir une expression de subtile et pertinente pour ces moments spéciaux.
Vous évoquez dans une postface, Teresa Balello, le manque d'assurance et comment Prado vous a incité à vous lancer. Quels sont vos doutes après avoir réalisé ces deux livres, ces deux tomes?
Pardon, tu n'as pas compris.
Quels sont vos doutes? Parce que vous, dans une postface, vous parlez du manque d'assurance que vous pouviez avoir et que Michelangelo Prado vous a incité à dépasser.
Oui,
alors, quels sont vos doutes? Parce que vos deux livres sont étonnants. Et est-ce qu'il y en a encore?
C'est vrai que quand j'ai commencé à dessiner Contrapasso, j'avais passé beaucoup, beaucoup d'années sans dessiner trop de temps. Alors...
Ça, comme on dit, nous avons été coupés. Alors, on va rappeler Teresa Balello. Et je vais vous donner les caractéristiques, les détails de ces deux livres. Donc, Contra Passo compte deux épisodes. Il y a eu le tome 1, Les enfants des autres. Donc, c'est publié par les éditions Dupuis dans une nouvelle collection qui s'appelle Air Noir, qui est donc la version fiction policière ou thriller de la collection Air Libre, prestigieuse collection des éditions Dupuis. Et donc, Les enfants des autres, c'est 152 pages. Et le tome 2, pour adultes avec réserve, c'est 192 pages. C'est dans la même collection. Et chaque livre est au prix de 25 €. Les deux livres ont été imprimés en Belgique. Voilà, donc on a de nouveau Teresa Balello. Alors ça y est, on poursuit. On était sur cette question sur les doutes.
Oui, c'est ça. C'est que j'avais pas mal de doutes parce que je venais d'une longue période de ne pas dessiner beaucoup parce que j'étais maman de trois enfants et ça m'a pris pas mal de temps et de les élever. Et alors, oui, c'est Prado et c'est aussi mon mari, Juan Díaz Canales, c'est aussi d'autres collègues qui m'ont aidé beaucoup pour avoir finalement la sécurité de comment faire des choses, de laisser grandir les récits et aussi d'être sûr que la qualité de dessin et de couleur était là. Alors oui, je les remercie beaucoup.
Teresa Balello, quelle va être la suite pour Contra Passo? Est-ce qu'il va y avoir d'autres histoires? Parce qu'il y a une sorte d'enquête policière qui reste en arrière-plan. Vous allez vous travailler à une suite? Vous travaillez déjà peut-être à une suite?
Oui, oui, je travaille maintenant dans le troisième et dernier épisode parce que ça va être une trilogie finalement. Et pour le troisième tome, je vais parler de cet assassin qui a fait les fils rouges entre le tome 1 et le tome 2, que c'est une serial killer qui a tué 17 femmes. Et alors, on va tout découvrir dans les derniers tomes autour de ces crimes et comment ça vient du passé aussi, de la fin de la guerre civile et pourquoi est-ce que cette serial killer a tué et un nombre exact de femmes. Et il commence maintenant à tuer des hommes.
Une dernière question, Teresa Balello, c'est par rapport au réalisme, au dessin. Vous mentionnez aussi dans une postface cette volonté de justesse que le dessin reflète la vie. Ça rappelle un titre d'un roman de Paco Ignacio Talbot II qui s'appelle La vie même. Est-ce que c'est votre projet d'écriture narrative et texte et dessin que ça soit la vie même?
Et oui, oui, pour moi c'est une préoccupation ça parce que je parle d'une époque que je n'ai pas vécue directement. Alors, j'essaye de le faire de la forme le plus réaliste. C'est pour ça que j'ai fait beaucoup de recherches d'époque, pas seulement de l'ambiance, pas seulement des informations, mais aussi les vêtements, tous les véhicules, les bâtiments, les rues, tout ça. J'ai des collections énormes de photos avec lesquelles je travaille et pour essayer de recréer un peu tout ça, d'une façon de rigoureuse et sérieuse pour que les récits aient une force et peut donner vraiment l'impression de ces années de dictature, non, de l'oppression et la pauvreté de une grande partie de la population qui n'a manteau à porter. Et tout ça, j'y essaye de le faire très sérieusement.
Merci beaucoup, Teresa Vallejo, de nous avoir emmené dans l'écriture de Contrapasso. Pendant la coupure, j'avais donné les caractéristiques. Il reste des éléments à évoquer. Donc, c'est une traduction d'abord de deux traductrices sur le Thomain. Donc, il s'agit d'Anne-Marie Ruiz et de Marie Estripo-Bourjac. Et puis, le tome 2 a été traduit par Doug Hedline. Et le lettrage est réalisé par Laurence Gratto. Merci beaucoup et très bonne continuation pour le tome 3.
Merci à vous et avec plaisir. Merci.
Merci. Au revoir, Teresa.
Au revoir.
Tengo ni padre ni madre que sufran mis penas. Huérfano soy. Solo llevo tristeza y martirio en el alma. El cruel dolor de no hallar una mujer. Una mujer que me llene el vacío tan grande que ellos dejaron con tierno amor.
Yo no tengo padre, yo no tengo madre, yo no tengo a nadie que me quiera a mí. Yo no tengo padre, yo no tengo madre, yo no tengo a nadie que me quiera a mí.
Qué triste es vivir sin padre, da pena un hijo que llora. Pero más triste, señora, es vivir sin una madre. Qué desgraciado soy yo, qué desgraciada fortuna. Hay muchos que tienen dos y yo sin tener ninguna.
Huérfano, huérfano soy, yo soy el huérfanito.
Huérfano soy en la vida, el mundo ignora mi pena. Llevo la llama encendida de mi orfanda paso a paso y río como el payaso por misión incomprendida.
Huérfano, huérfano soy, yo soy el huérfanito. Huérfano, huérfano soy, yo soy
el huérfanito.
Ça nous ramenait à l'époque. Il y a des chansons qui qui sont présentes à différents moments de ce récit de Contrapasso. Il n'y aura pas de livre présenté juste après, parce que je préfère prendre le temps pour le faire. Et donc, on se retrouve la semaine prochaine avec un autre invité. Je vous rappelle les deux expositions proches, celle de Pondéro à Lorbise, où vous avez une 70 auteurs, autrices, dessinateurs, dessinatrices, sculpteurs, sculptrices, réalisateurs de vitraux et réalisatrices de vitraux qui exposent. C'est une foison et c'est réjouissant. Et puis il y a celle du collectif. À chaque fois, voilà. Donc, Propagation, le collectif Propagation pour cette exposition Onde qui a lieu au local de l'autre côté, local Culture et Solidarité. Et c'est encore pour une semaine. Eh bien, très bonne semaine à tous sur les ondes de Radio Escapade. Et merci Fabien pour cette technique. À bientôt. Écriture dessinée.